deux invités, un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Chacun de leur côté, ils se sont donc préparés pour cette rencontre. On commence par vous. Qui êtes-vous ?
Bon, moi, je m'appelle Michel Rieux. J'étais professeur des universités et praticien hospitalier, chef de service à Cochin, d'exploration fonctionnelle et de médecine du sport. Et maintenant, je suis le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ?
À mon avis, pour deux raisons. La première, c'est parce que, de par mon activité actuelle, je connais bien les problèmes de dopage et de par mon activité passée, je connais bien ce qui entoure le sport sur le plan de la biologie et sur le plan de la physiologie.
Même question, présentez-vous.
Je m'appelle Gérard Dine, je suis professeur de biotechnologie à l'École centrale de Paris et je dirige un service d'hématologie clinique et biologique proche de produits très innovants et utilisables dans le dopage.
Et pourquoi vous pour ce débat ?
Je pense que je relève de plusieurs cultures, la culture médicale, la culture scientifique et la culture sportive comme ancien joueur de rugby devenu médecin du sport. Dans ces conditions, la confrontation entre ces cultures m'a permis de défendre des positions originales dans le domaine du dopage.
Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Allez, on commence, première partie.
Pour moi, le mot performance n'a pas une grande signification. Parce que le sport, d'abord, je pense que vous serez d'accord, hein, le sport, c'est avant tout une confrontation. Une confrontation face à un individu ou à plusieurs individus, soit face à soi-même. Mais de toute façon, la performance, elle est subsidiaire. Dans le sport, ce qui est important, à mon avis, hein, c'est quand même de gagner. De gagner sur les autres ou de gagner sur soi-même. C'est ça, le sport.
Oui, je pense, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le sport est devenu un spectacle et que la performance fait vivre le spectacle. Donc, dans les sports individuels, par exemple, la performance chronométrique est incontournable. On voit ce qui se passe pour les deux grands sports individuels olympiques, l'athlétisme et la natation. Et dans les sports d'équipe, la confrontation, le renouvellement des matchs, les compétitions internationales font partie aujourd'hui du décorum. Et en fait, c'est la pression de l'extérieur, la pression entre guillemets du marché, qui entraîne ce problème de toujours plus de performance.
Oui, mais vous voyez bien que vous donnez au mot performance deux sens.
Absolument.
Il y a la performance mesurée, ça vous l'avez bien dit, hein. Par exemple le chronomètre, le centimètre, le poids, tout ça, ce sont des choses qui sont mesurables. Et puis vous avez la performance, c'est une autre façon d'envisager le terme, c'est la performance d'une équipe qui gagne sur une autre. Mais on n'est plus tout à fait au même niveau de performance.
Je pense que c'est lié à l'évolution du sport. C'est-à-dire que le sport, dans sa définition moderne à la fin du 19e siècle, c'était par rapport au corps. Le processus de la compétition est arrivé. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec l'irruption des idéologies d'abord, puis l'irruption, entre guillemets, du marché, des médias et de l'environnement économique du sport, notamment de haut niveau, hein, on est bien d'accord, là, il y a véritablement un changement dans la donne. Et ça, cette pression de l'extérieur, aujourd'hui, tous les gens qui sont sportifs de haut niveau la subissent, et il y a un véritable environnement avec les annonceurs, les médias, les politiques, les équipementiers, et on demande au corps humain plus de performance, à tous les niveaux. C'est vraiment... Ce qui n'a pas changé, c'est le corps humain. Par contre, la nécessité de performance est devenue incontournable.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la performance en tant que telle, la performance mesurable, j'entends, n'a pas une grande signification. Elle n'a pas une grande signification parce que, prenez le 100 mètres, par exemple, hein, vous courez le 100 mètres. Imaginons même qu'on arrive à courir le 100 mètres en 9 secondes. Bon, ça n'a aucun intérêt, aucune signification. Ce qui est important, c'est de gagner le 100 mètres. Moi, si je veux faire le 100 mètres en moins de 9 secondes, je prends ma moto.
Tout à fait d'accord.
Point. Autrement dit, on est maintenant dans un système, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, qui est un système de représentation, de spectacle. On attire les gens avec la performance comme on attire les mouches avec je ne sais pas quoi. Il paraît que c'est du vinaigre, non, je ne sais voilà. plus.
Ou du miel,
je sais
du
pas.
Du miel, peut-être. On voit bien le danger et les réponses inadaptées des sports, par exemple, olympiques, parce qu'ils ont recherché la performance. La natation, en cela, est exemplaire. Il y a eu un véritable dopage technologique avec l'irruption des combinaisons. Ouais. En fait, la natation était un sport magnifique. C'est un sport qui est très pratiqué. C'est le deuxième sport olympique, mais ça se passe en piscine. C'était un peu à l'écart par rapport à l'athlétisme qui avait fait son virage bien avant. Et en imaginant ces combinaisons qui font qu'on battait des records quasiment à chaque compétition, on a donné un focus médiatique à la natation et on a vu en 2 ou 3 ans un basculement de l'intérêt. Donc on voit bien là qu'aujourd'hui, le corps des athlètes n'appartient même plus à ces athlètes. Il appartient aussi bien à plein de gens autour. Et là, il y a un véritable, pas problème, mais il y a une véritable déviation possible.
D'où le dopage.
D'où le dopage.
D'où le dopage. Et le dopage, il est intimement lié à la performance.
Absolument.
Il est aussi lié à la victoire, bien sûr. Mais il est avant tout lié à la performance.
Et on est dans une forme d'engrenage, de surenchère, et je crains qu'on n'ait pas beaucoup d'armes pour lutter contre.
Si vous vous référez à la signification des épreuves sportives, notamment en athlétisme, voyez bien que ces épreuves sont totalement décalées par rapport aux jeux antiques. Dans les jeux antiques, il y avait une signification. Le lancer du javelot, ça avait une sacrée signification. La course aussi. Je ne parle même pas des courses de chars. Autrement dit, il y avait un substrat dans ces jeux antiques qui était notamment le comportement guerrier. Bon, ce n'est plus maintenant le cas. Hein, l'athlète qui va lancer le javelot, en général, il ne vise pas l'adversaire qui est en face de lui. Il essaie de l'éviter même. Autrement dit, il y a là un côté tout à fait artificiel du jeu sportif qui rapidement va tomber dans le jeu spectacle. Et quand on dit jeu spectacle, on dit évidemment à ce moment-là, comme vous l'avez dit, intervention médiatique, intervention financière et à partir de certains cas, l'ouverture à l'artificiel, l'ouverture au dopage. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, toujours plus de performance, oui, mais pourquoi ? À mon avis, ce n'est pas tellement pour le sport.
Effectivement, alors, la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui par rapport à cette problématique toujours plus de performance, c'est que c'est quelque part la projection de nos sociétés. Hein. On est dans la performance financière, dans la performance industrielle. On parle de mondialisation aujourd'hui. Il ne faut pas rêver. Ce qu'on demande aujourd'hui aux êtres humains qui font du sport pour eux ou qui font du sport de compétition, en fait, c'est d'être performant. Et en fait, il y a une espèce d'égalisation des cultures, des compréhensions. Et à partir de là, pourquoi le sport de haut niveau échapperait à cette situation ? Ben, en fait, il n'échappe pas du tout. Il est dans la société, le sport de haut niveau. Il y participe même. Ce qui est ennuyeux dans cette affaire, également, c'est la répétition et la prolongation dans la carrière du sportif. C'est-à-dire qu'on a parlé un peu là, de sport individuel, de sport chronométrique, de faire des performances pour attirer le chaland. Par contre, ce qui est très clair aussi, c'est que la carrière du sportif l'oblige à maintenir son niveau de performance. Une fois qu'il est au sommet, il faut qu'il y reste. Or, on sait très bien que le sport du haut niveau, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut qu'il préserve son intégrité physique. Or, on lui demande de plus en plus, il va vieillir. À partir de là, on est au cœur du problème. La performance, le sport, mais le moteur du spectacle, ça reste le corps.
Oui, mais vous voyez bien que, malgré vous, vous en revenez forcément à ce modèle qu'est le sport de haut niveau.
Oui, tout à fait. Hein?
Et ça, c'est pas un modèle. Et d'ailleurs, on peut réfléchir là-dessus. Prenons les cas de la France. Le mouvement sportif, c'est quoi ? C'est 2 millions de bénévoles. C'est plus du tiers des associations qui sont françaises qui sont consacrées au sport. Le sport, pour beaucoup, c'est l'apprentissage de la règle. C'est l'intégration sociale. C'est tout ça, le sport. Et paradoxalement, on offre comme modèle un modèle que vous venez de définir, qui en fait est le sport-spectacle, et on a sorti ce modèle de discours moralisateurs, où c'est le dépassement de soi, c'est l'effort, etc., etc. Et du coup, si on accepte que le phénomène du dopage devienne un phénomène, pour ainsi dire, banalisé, mais à ce moment-là, vous allez retomber vers les jeunes face à ce modèle qui vont trouver qu'il est tout à fait banal et normal de se doper. Et c'est là où il y a le problème de santé publique.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'il faut lutter contre le dopage.
Là, c'est clair que nous savons que les plus gros risques ne sont pas sur les sportifs de haut niveau, qui sont en général bien encadrés, y compris par les dopeurs, et pas forcément que par les dopeurs d'ailleurs, mais par des gens aussi qui luttent contre le dopage, heureusement. Mais ce qui est clair, c'est que les produits courants, accessibles sur Internet par exemple, eux, vont être utilisés sans encadrement par la grande masse. Et c'est là où on est très ennuyé. Parce que cette performance, là, concerne également les non-sportifs de haut niveau. Et donc là, il y a le décalage joue dans les deux sens. Et c'est très délicat à la fois d'interpréter les événements et surtout de proposer des solutions et de proposer des discours sans tomber dans une vision trop moralisatrice ou une vision, on va dire, cynique ou réductrice. C'est pas simple du tout. Par contre, effectivement, il faut avoir une position très claire sur ces produits dopants de base qui, eux, sont très dangereux. Effectivement, sur le plan des produits dopants, malheureusement, l'arsenal s'est considérablement amélioré, si on peut dire, depuis 30 ou 40 ans. En fait, le dopage moderne, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est des spirales qui convergent. La spirale du sport moderne et de son irruption médiatique, politique, économique, et puis la spirale des progrès, on va dire, de la médecine et de toutes les technologies autour de la médecine, c'est-à-dire le corps humain, au départ fait pour guérir les gens et pas pour les améliorer, quand ils ne sont pas malades. Et à partir de là, le dopage moderne explose à partir des années 50, chimie, biochimie, et il a été quelque part conceptualisé quand même par les pays de l'Est. Il a été institutionnalisé, malheureusement. Et au moment où le monde s'est un peu ouvert, dans le sport de haut niveau, là est arrivée une véritable révolution, la révolution biotechnologique, avec des produits qui défient toutes les compréhensions, qui posent des problèmes sur leur efficacité, parce qu'ils sont efficaces, et puis qui posent des problèmes au contrôle antidopage tel qu'il avait été élaboré à partir des années 60-70, et là, il y a aussi un décalage. Et l'arsenal dopant se développe à une vitesse très importante, permet de modifier ou de corriger des parties d'individus, et malheureusement, une partie des performances depuis 10 ou 15 ans sont très suspectes pour certaines.
Quand on regarde le dopage, y compris d'avant-guerre, rappelez-vous que la Société des Nations, à l'époque, l'ancêtre de l'ONU, donc avant la guerre, avait déjà attiré l'attention, y compris dans le domaine du sport, sur les amphétamines et les anabolisants. Et puis alors, ensuite, quand vous reprenez, moi je dirais qu'y compris l'Allemagne de l'Est, ce qui est très original dans l'Allemagne de l'Est, c'est l'institutionnalisation d'État parfaitement réglé, sous couvert de la médecine, sous couvert de l'entraînement et sous couvert de la police, de la Stasi, la police secrète. Ça, c'est très original, si j'ose dire. Enfin, je l'espère. Mais c'était encore quand même un peu un dosage de papa qui, à la limite, peut encore exister chez les amateurs, les anabolisants, les psychoactifs. Là où je crois qu'il y a eu une grande révolution, c'est à partir des années 80, début des années 90, avec l'apparition de l'EPO, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et maintenant tous ces dérivés, et la tendance aussi du développement de la, disons, de la thérapie cellulaire, et peut-être un jour, pourquoi pas, de la thérapie génique. Alors, actuellement, il y a un petit mélange entre thérapie cellulaire et thérapie génique. On est, à mon avis, mais je me trompe peut-être, hein, je pense que la thérapie génique, on n'y est peut-être pas encore tout à fait, quoiqu'on sait que certains sportifs adorent se présenter comme des cobayes humains, je trouve ça un peu bizarre. La thérapie cellulaire avec transfection, ça, c'est, à mon avis, on est au bord, si on n'y est pas déjà. Voilà, donc, moi, je pense quand même, je suis beaucoup plus inquiet pour ce qu'on appelle la pharmacologie intelligente. C'est-à-dire la nouvelle pharmacologie qui, elle, va interférer avec toutes les voies de signalisation, c'est-à-dire les voies de régulation qui permettent de modifier, maîtriser, réguler l'expression du gène. Ça, oui. D'ailleurs, on sait qu'à l'heure actuelle, il y a l'utilisation d'un certain nombre de produits de ce type, et notamment des produits qui vont moduler certains récepteurs et qui vont avoir un rôle d'antifatigue. Hein. Je ne dirai pas lequel, mais vous le savez comme moi.
Effectivement, c'est devenu problématique, quoi. Aujourd'hui, on vit dans un monde de bio-ingénierie, et ces thérapeutiques auxquelles vous faites allusion, donc en fait, touchent quand même à l'ensemble des biotechnologies. C'est-à-dire, dans notre jargon, nous, on appelle ça thérapie ciblée, c'est-à-dire un médicament qui va cibler le dysfonctionnement. Donc c'est inventé essentiellement, pour l'instant, dans le domaine du cancer, lutter contre le cancer, mais on a des applications également dans les maladies métaboliques ou les maladies cardiaques. Et ces produits viennent comme un missile ou comme un petit élément pour bloquer ou améliorer quelque chose dans le cheminement métabolique ou dans le cheminement des molécules à l'intérieur d'une cellule ou d'un corps. C'est vraiment ennuyeux, parce que ces produits sont déjà existants, sont très difficilement détectables au niveau du contrôle antidopage, posent un certain nombre de problèmes, et la lutte contre le dopage, là, doit évoluer très rapidement, probablement en se rapprochant de l'industrie pharmaceutique, comme ça a été le cas ces derniers temps. Par contre, pour ce qui est des thérapies, on va dire, futuristes, la thérapie cellulaire, c'est déjà une réalité dans l'art vétérinaire, et ces traitements sont déjà banalisés. Je rappelle que nous ne sommes que des mammifères supérieurs, et donc l'utilisation de cellules tendineuses ou de cellules cartilagineuses, voire de cellules musculaires, est déjà à l'étude ou à l'essai sur des humains, avec des projections d'utilisation dans certains problèmes de réparation traumatique. Et donc là, on voit déjà autre chose s'ouvrir, c'est la frontière avec le dopage. Où va se situer le dopage? Où va ne pas se situer le dopage? Préparation, réparation. Pour ce qui est de la thérapie génique, en fait, je crois que tout le monde attend le retour des premiers essais sur les vrais cobayes humains, que sont par exemple les myopathes, ou les patients atteints de mycoviscidose, ou les patients atteints d'hémophiles. Actuellement, les études sont menées sur des vrais humains pour ces maladies. Les gens attendent. Malheureusement, ce qui m'ennuie un peu, c'est que le passage technologique risque d'être très rapide, puisque manipuler de manière génique un tendon, c'est beaucoup moins lourd de conséquences que de traiter un patient qui est atteint de mucoviscidose. Et donc, j'ai quand même l'impression que là, les choses risquent de se banaliser assez rapidement et que l'argument de la réparation risque quand même d'être très fort.
Mais vous êtes d'accord avec moi pour penser que ce type de dopage, maintenant et plus tard, très sophistiqué, n'intéressera qu'une petite fraction des sportifs, et notamment de sportifs de haut niveau, et je dirais même plus de sportifs de haut niveau, très médiatisés, ayant à leur disposition des équipes scientifiques et ayant à leur disposition beaucoup d'argent.
Absolument, complètement d'accord avec vous. Simplement, comme on est dans une scène avec un paysage, le rôle des agences antidopage là est très important. Parce que si elles n'arrivent pas en termes d'exemplarité, c'est pas pour compliquer la tâche des agences, mais si elles n'arrivent pas à contrôler ce dopage high-tech, très haut niveau, où il y a beaucoup d'argent, et donc beaucoup de scientifiques dont les compétences sont largement égales aux nôtres, voire supérieures, pour dévier ces produits technologiques, l'exemplarité pour le reste de la population peut être dévastateur. Une exemplarité dans le mauvais sens, bien entendu.
D'où l'intérêt pour les agences, et nous c'est ce que nous essayons de faire au mieux, c'est d'avoir des relations très étroites avec l'industrie pharmaceutique, avec les instituts de biotechnologie, il ne faut pas l'oublier, et en même temps de mettre en place tout un arsenal de recherches qui permettent, non pas forcément dans un premier temps d'aller chercher le produit en cause, mais de mettre en évidence un certain nombre de signes indirects, de paramètres biologiques en utilisant les technologies modernes, que sont par exemple la protéomique, de façon à essayer d'isoler des populations que je vais appeler à risque, pour ne pas dire suspectes. À partir de ces populations, c'est dans ces populations qu'il nous faudra aller au but, c'est-à-dire prouver après le dopage.
Complètement. La difficulté, et c'est là où je suis effectivement un peu décalé par rapport à cette affirmation, c'est que les mêmes outils sont utilisés des deux côtés.
Ah oui?
C'est très ennuyeux.
Bien sûr.
Ça veut dire que le niveau de compétence et le niveau d'outils technologiques pour doper ou pour lutter contre le dopage est le même. À partir de ce moment-là, il est très difficile, avec les réglementations actuelles, d'affirmer la preuve d'un dopage, parce que ceux qui dopent connaissent les limites de la réglementation et des outils nécessaires pour affirmer le dopage. Et on est donc dans une situation très difficile, très ambiguë, pour les années qui vont venir, ça va être quasiment une confrontation scientifique et technologique, et je ne suis pas sûr que du point de vue des réglementations actuelles, on arrive à remporter ce combat contre ce dopage high-tech. Il y a un autre élément qui, moi, m'interpelle, c'est que autant les dopages classiques, amphétamines, stéroïdes, sont dangereux pour les sportifs de haut niveau, donc dangereux pour la population standard, celle qui va les utiliser et qui les utilise aujourd'hui, autant ces dopages high-tech, on n'a pas de recul sur leur dangerosité. Ça veut dire qu'entre les mains de grands spécialistes, il n'y a pas de danger forcément sur le court terme. Sauf que leur pouvoir d'intrusion, c'est-à-dire le pouvoir de modification de ces produits, est beaucoup plus insidieux. Donc on n'a pas de recul. Et là, il y a un vrai débat du point de vue des sportifs eux-mêmes, dont certains se considèrent comme des cobayes. Des cobayes pour l'humanité.
Tout ce dont on vient de parler va intéresser une population de plus en plus étroite. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça veut quand même dire qu'il va devenir de plus en plus onéreux et de plus en plus difficile de se doper, et que plus on va restreindre cette population, plus on aura gagné. Le but n'est pas forcément, vous savez, c'est comme le gendarme et le voleur. Est-ce que vous avez imaginé un jour qu'on allait éliminer la criminalité ? Non. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est de la réduire et de l'identifier. C'est la même chose pour le dopage. Il faut réduire la population, cette population, il faut la cibler, l'identifier, la réduire. Il faut aussi la stigmatiser, je crois que c'est important, parce que comme vous l'avez dit, cette population ne doit pas être présentée comme un modèle. Et à partir de ce moment-là, par contre, on gagne sur l'ensemble et sur l'autre population. Parce que quand on vous dit... il faut légaliser le dopage, quand j'entends ça, mes cheveux se dressent sur la tête. Et comme argument, on me dit, ouais, de toute façon, le dopage inéluctable n'arriverait jamais à le vaincre. C'est absurde. On vient de démontrer le contraire. Alors qu'est-ce que ça veut dire, légaliser le dopage? Ça veut dire que vous allez, au contraire, à l'inverse, magnifier cette population qui se dope. Vous voyez, il n'y a pas de danger. C'est un discours qui est tenu des fois. Le dopage, il n'y a pas de danger si les médicaments...